franceinter.fr. Lors de la revue de presse d'Olivier Bénis. Bonjour Olivier.
Bonjour Hélène.
Avec en une de Libération, un énorme nez rouge collé sur le visage de Donald Trump.
Et cette question que se pose le quotidien, et si Donald Trump était la meilleure chose qui soit jamais arrivée à la télévision américaine et à ses humoristes? En tout cas, de mémoire de téléspectateurs, on n'avait pas vu ça depuis les années gaffeuses de George W. Bush, assure Isabelle Hahn. Mais la matière n'était pas aussi abondante. Pour l'historien de la télé américaine Robert Thompson, Trump est un carburant surpuissant, non seulement vous avez quelqu'un de très facile à imiter et à parodier, mais par-dessus le marché, vous avez un flux continu d'histoires, chaque jour ou presque, des histoires dingues qui, pour la comédie, se suffisent presque à elles-mêmes. Mais Trump a aussi eu un effet intéressant sur le style des comédiens qui le moquent. Il les a poussés à se politiser encore plus qu'avant, tout simplement parce que ça marche. Libé met ainsi en parallèle Jimmy Fallon, amuseur de talent, mais plutôt consensuel, et Stephen Colbert, bien plus mordant. En quelques mois, le second a rejoint le premier en tête des audiences, alors qu'il partait avec 1 million de téléspectateurs en moins fin 2016. Trump a été un vrai cadeau pour Colbert. Il lui a offert une cible, un méchant avec qui jouer, explique Chris Smith du New York Magazine. Et même si tout le monde essaie désormais de surfer sur la vague des cheveux blonds orange du président américain, certains ont bien trop d'avance. Colbert est venu avec un couteau de boucher, Fallon avec un couteau à beurre, résume un autre journaliste américain.
Dans le magazine du Monde ce week-end, c'est un étrange titre qui attire l'œil de l'amateur de politique.
Et François Fillon renonça à renoncer. Passionnant récit des coulisses d'un des moments les plus forts ou les plus surréalistes, c'est selon, de la campagne présidentielle, ce rassemblement organisé par François Fillon au Trocadéro le 5 mars 2017. Ariane Chemin et Mathieu Goard retracent minutieusement les événements qui ont conduit à cet instant dont on sait désormais qu'il annonçait presque le fiasco du premier tour. Tout part d'une simple réunion de campagne fin février où l'équipe du candidat apprend sa convocation et celle de sa femme par les juges. Va ensuite germer cette idée d'un plébiscite de la rue. Enfin, de certaines rues, celles qui mène au Trocadéro, celle du 16e arrondissement, celle où, dans l'article, on nous dit « au monopoly politique, la droite filloniste y est chez elle », celle aussi du mouvement Sens commun dont le soutien va être à la fois convoité pour son fichier magique d'1 million de noms récoltés pendant les manifestations contre le mariage pour tous, mais aussi embarrassant quand, avec Valeurs Actuelles, il annonce une marche contre le coup d'état des juges, exactement le mot d'ordre qu'on avait demandé d'éviter. Tout ça se lit comme une pièce de théâtre avec un personnage secondaire des plus fascinants, Nicolas Sarkozy, qui tente par coup de fil régulier de pousser François Fillon vers une sortie honorable jusqu'à ce constat d'échec que lui lance François Baroin au téléphone. Soit tu n'as pas bien compris, soit il t'a menti. Il connaissait Fillon l'impénétrable, il découvre Fillon le dissimulateur, écrivent les journalistes.
Le journal Le Figaro termine aujourd'hui sa série sur les premières vacances des présidents de la République.
TGV, short de bain, légère embonpoint, voilà comment le journal résume les vacances de François Hollande en août 2012. Des vacances quasiment construites brique, par opposition avec le style de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, le fort de Brégançon contre la villa du Cap Nègre, le normal contre le bling-bling, le voyage en train plutôt qu'en Falcon. Et c'est justement sur un quai de gare que François-Xavier Bourmeau du Figaro entame son récit. Un président de la République en train d'embarquer dans son TGV pour partir en vacances, on n'a jamais vu ça, et c'est justement fait pour être vu. Le problème, c'est que cette normalité va vite se retourner contre lui. Une fois sur place, François Hollande est, comme n'importe quel Français, heureux d'être en vacances. Ou plutôt, il en a l'air, explique le journaliste. En réalité, François Hollande déteste ne rien faire. Il travaille beaucoup sur tous les dossiers, mais ne s'affiche pas au travail. À l'inverse, un de ses ministres, un certain Manuel Valls, est en vacances, mais lui s'affiche en permanence sur le terrain. François Hollande tente bien sur la fin de corriger cette image de vacancier lassif, mais il est trop tard. À peine rentré de Brégançon, il passe sous la barre des 50% de popularité. Tout ne s'explique pas par ses seules vacances, tempère François-Xavier Bourmeau, mais les racines du mal sont là, sur ce quai de la Gare de Lyon, où tout semblait si normal, trop normal. Autre série d'été qui commence, elle dans la Croix, sur les héroïnes de bandes dessinées, pas si nombreuses. Dans ce premier épisode, le journal se penche sur Wonder Woman, 76 ans, et toujours prête à botter les fesses du patriarcat, imaginée d'ailleurs dès sa création, en 1941, comme une figure féministe par le psychologue William Moulton Marston, qui disait « Wonder Woman, c'est de la propagande psychologique pour un nouveau type de femme qui devrait, je crois, diriger le monde. » On n'y est pas encore, mais la Croix en est sûre, la super-héroïne nous en a un peu rapproché.
Mais quel suspense ! Neymar va-t-il rejoindre le PSG la saison prochaine?
Alors, à en croire le Parisien et l'équipe ce matin, c'est quasiment fait. Il ne reste plus au club qu'à trouver 222 millions d'euros pour s'offrir voilà, ce petit cadeau de rentrée des classes. C'est un peu cher, mais bon, c'est quand même mieux qu'un simple cartable Pokémon. Le dernier indice en date, c'est une simple photo Instagram postée par le joueur. Il est allongé dans l'herbe, la main délicatement posée sous le menton. Songeur, selon l'équipe, ou le regard dans le vide pour le Parisien, un petit peu moins poète. À quoi pense-t-il? Mystère. En tout cas, ce transfert, tout réjouissant qu'il soit pour les fans, pourrait aussi être un cadeau empoisonné pour le PSG, rappelle Étienne Moati dans l'équipe, à cause du fameux fair play financier, cette règle du UEFA, qui avait déjà valu un coup sur les doigts du club il y a 3 ans. Et c'est là qu'on comprend que depuis son gazon sur Instagram, Neymar est peut-être tout simplement en train de résoudre des équations à 2 ou 3 inconnus. Doué en foot et en maths, ça force le respect. Et puis pour finir cette revue de presse, ce petit billet dans Libération qui nous parle d'un événement passé presque inaperçu et qui pourtant va peut-être bouleverser votre vision du monde, Hélène. C'était jeudi et c'était, selon Marie Ottavi dans Libé, le jour où Céline Dion est devenue cool. Car oui, explique la journaliste, jusqu'ici, on avait du mal avec la chanteuse, trop premier degré, trop de René, trop de couverture de Paris Match, jusqu'à ce que Céline Dion devienne ce jeudi le pendant féminin de Jean-Claude Van Damme après son grand écart entre 2 camions, rien que ça, en apparaissant en diva excentrique dans 2 vidéos du magazine Vogue. Une diva qui se moque enfin d'elle-même pour qu'on n'ait plus à le faire à sa place, explique Marie Ottavi, qui conclut « Rien ne sera plus jamais comme avant, il ne manquerait plus qu'elle fasse de la bonne musique pour qu'on l'aime définitivement. »
Mais nous, on ne s'est jamais moqué de Céline Dion.
Jamais de la vie.
Merci beaucoup Olivier Bénis pour la revue de presse.